Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
Les chroniques westernosophiques du professeur Rosmini. Tous les deuxièmes et quatrièmes dimanches du mois. Sur Radio Grenouille 888.
Le western est un genre qui, pour aller vite, raconte la conquête de l'Ouest, la vie sauvage, l'avancée vers la frontière au 19e siècle. Donc on pourrait dire que le western est un genre historique. Bon, avec beaucoup de guillemets, parce que évidemment les événements, même réels, qui sont relatés dans les westerns, le sont souvent sans une ambition scientifique et historique réelle. Mais toujours est-il, malgré tout, que le western parle d'événements qui ont vraiment eu lieu, de peuples qui ont vraiment existé, et il devient même parfois ethnographique en ce qu'il a l'ambition de montrer la manière de vivre des Indiens. Or, bien évidemment, les cultures indiennes sont des cultures profondément différentes de la culture qui a finalement conduit à inventer le cinéma, à la fois comme technique et comme art. Donc la question, c'est de savoir si une culture peut en comprendre une autre, si un moyen d'expression artistique, en l'occurrence le cinéma, peut aider à comprendre une culture, et si le cinéma peut refléter une certaine vérité historique. Alors sur le lien entre cinéma et histoire, je renvoie l'auditeur au très bon livre de Marc Ferraud, l'historien, qui s'appelle Cinéma et Histoire, qui est édité chez Folio, et qui est absolument passionnant.
Ceci est l'histoire d'un pays, d'un peuple qui vivait en l'année 1870, et d'un homme nommé Cochise. C'était un Indien, chef de la tribu Apache des Chiricahua. J'ai vécu cette aventure. Et ce que vous allez voir sur l'écran en est le fidèle reflet. On n'y a changé qu'un détail. Lorsque les Indiens Apaches parlent, ils s'expriment dans notre langue. Ces événements font partie de l'histoire de l'Arizona. Et l'épisode qui me concerne a commencé ici, à l'endroit où vous me voyez passer à cheval.
Le premier constat qu'on peut faire, c'est que la vie des Amérindiens, les événements qui les ont concernés sont essentiellement dans le western racontés par des cinéastes qui ne sont pas indiens, qui ne sont pas amérindiens. Il n'y a quasiment pas d'exception à cette règle. Apparemment, il existe un film qui s'appelle Return of the Country de Bob Hicks de 1982 qui a l'air assez intéressant, qui montre un monde à l'envers en fait, où il y a des réserves blanches, les blancs sont dans des réserves, le président est indien, etc. Bon, ce film est à peu près introuvable, donc malheureusement je ne l'ai pas vu, mais je ne désespère pas de le trouver. Mais bon, toujours est-il que autant les Noirs américains, par exemple, qui ont subi l'oppression, l'esclavage, etc., ont développé, bien sûr, avec la Blaxploitation et puis avec des cinéastes marquants comme Spike Lee, par exemple, un cinéma avec un regard donc noir sur les événements. Il y a même un western, d'ailleurs, de Mario Van Peebles qui montre une bande de Noirs dans l'Ouest qui s'appelle La Revanche de Jesse Lee. C'était sorti en 1993. Eh bien, autant, de fait, aucun cinéaste amérindien n'a émergé. Et donc les Indiens, dans le western, sont toujours vus d'un point de vue qui n'est pas le leur. Alors la question c'est donc, est-ce qu'on peut comprendre une culture de l'extérieur ou est-ce qu'on la comprendrait mieux de l'intérieur ? Cette question, elle soulève un autre problème qui concerne un concept autrement problématique, qui est le concept de réalisme. Est-ce qu'on peut attendre d'un film, ou d'une œuvre d'art en général, un certain réalisme ? Alors le problème d'abord, il est politique, parce que le réalisme, il pourrait s'opposer aux mensonges, aux manipulations, aux mystifications. Donc il peut y avoir une ambition politique à montrer les événements comme ils ont vraiment eu lieu. C'est ce qu'on va appeler le western notamment révisionniste. On va dire, voilà, on va casser le mythe et on va montrer la réalité. C'est un problème esthétique aussi. Est-ce qu'une œuvre d'art peut être réaliste ? Est-ce que la fonction de l'art et les possibilités de l'art sont de montrer le réel tel qu'il est ? Est-ce que toute représentation n'est pas toujours une stylisation ? Et cette question de la représentation, elle fait que le problème du réalisme est non seulement politique, non seulement esthétique, mais aussi métaphysique. puisque ici, il est question donc du rapport entre le réel et ses représentations. Et cette question, elle renvoie au moins à Platon, qui n'avait pas vu de western, mais qui connaissait l'art figuratif avec la sculpture et la peinture. Et donc, sur la relation entre l'image et la vérité, hein, puisque pour Platon, bien sûr, aucune image ne peut être vraie. Et l'image ne fait que reproduire, en fait, des apparences. Donc, autour de cette question très complexe du réalisme, on peut soulever quelques exemples de films, d'ailleurs, que j'ai déjà pu évoquer dans d'autres chroniques. Exemple majeur, c'est La Flèche brisée, hein, de Delmer Daves, pardon. J'y reviens souvent, 1950. Alors, Delmer Daves, c'est un cinéaste qui s'est caractérisé par un intérêt très très précoce pour la culture indienne. Et quand il était jeune, il a même vécu quelques mois avec les Apaches. Donc, quand il prépare son film La Flèche brisée, il se documente énormément. Il observe. D'ailleurs, les Indiens avec lesquels il travaille n'avaient jamais vu de caméra. Donc, il y a eu un temps aussi d'adaptation réciproque, je dirais. Et puis, il y a un souci de fidélité à la réalité, hein, un souci ethnographique, on pourrait dire. La limite de ce souci, bien sûr, c'est quand on voit le film aujourd'hui, c'est que le mode de narration lui-même, le mode de narration reste profondément hollywoodien. Donc il y a quelque chose qui choque un petit peu dans le film entre finalement le fond et la forme. Il y a une très grande hétérogénéité entre le fond, qui est censé être donc au moins par moment la culture des Indiens, et puis la forme, qui est une culture complètement occidentale et hollywoodienne, avec des règles, des manières de filmer, des manières de monter, des manières de raconter, qui sont parfaitement hollywoodiennes. L'autre problème de ce film, c'est qu'il y a d'un côté un souci de vérité, un souci de vérité historique, disons, ou ethnographique, donc un souci scientifique, notamment quand il montre les rites de mariage, etc. Mais d'un autre côté, c'est un film aussi qui a une perspective morale, voire moralisatrice. Or, on peut penser qu'il y a une compatibilité entre les deux, puisque le propre du regard objectif, du regard scientifique, c'est de ne pas juger. Or ici, bien évidemment, Dave se juge notamment les Blancs, il juge les massacres indiens. Alors on peut penser que c'est une bonne chose, hein, c'est pas le problème. Mais est-ce qu'on peut en même temps comprendre et juger? Est-ce qu'on peut en même temps tenir un discours qui vise à comprendre, qui vise à montrer, et un discours qui vise à juger, donc à émettre des valeurs?
Mais ce jour-là n'est pas un jour comme les autres pour les Cheyennes. Loin de leur pays natal, aussi étrangers à cette terre que des aigles en cage, leurs trois grands chefs prient sur le coussin sacré pour que les promesses que les hommes blancs leur ont faites un an plus tôt en les exilant si loin de chez eux soient aujourd'hui honorées. Les promesses qu'ils leur avaient fait accepter d'abandonner leur façon de vivre et de quitter de riches étendues de terres fertiles et verdoyantes à 2000 km de là vers le nord.
Un autre exemple célèbre, mais qui prolonge les mêmes problèmes, en fait, hein, c'est Les Cheyennes de Ford, 1964, donc une quinzaine d'années après. Ford disait à propos de ce film: « J'ai voulu montrer ici, pour une fois, le point de vue des Indiens ». Fin de citation. Alors, louable souci, mais là aussi des limites. Alors, la voix off d'abord, hein, le film est accompagné tout au long du récit par une voix off qui est censée justement donner une valeur historique, hein. D'ailleurs, elle commence par une date, le 7 septembre 1878, etc. Sauf que d'abord, la voix off, bah, c'est une voix, encore une fois, en anglais, une voix qui raconte l'histoire comme les Occidentaux la racontent. Et puis, c'est une voix aussi qui mélange le constat de fait, l'analyse et le jugement moral, puisqu'il est question de nous faire prendre les Indiens en pitié et donc de juger ceux qui les ont maltraités. Autre chose aussi, le film de Ford, assez bizarrement, organise surtout le récit autour des personnages blancs. Et on sent que Ford a du mal à donner une réelle individualité aux personnages indiens, qui sont d'ailleurs souvent filmés comme des figures hiératiques, immobiles, presque comme des sculptures, hein. Il y a un aspect très, très sculptural dans le film. Et on sent que Ford, malgré toute sa bonne volonté, a du mal à vraiment individualiser, à vraiment faire des Indiens des personnes à part entière. L'intérêt du film, il est aussi un petit peu en abîme, dans la mesure où le film de Ford nous fait réfléchir sur les sources, puisque l'histoire, elle se construit toujours par rapport à des sources, bien évidemment. Les cinéastes ni les historiens n'ont de machine à remonter le temps. Et on constate dans le film, bien évidemment, et c'est une évidence, que les sources, elles sont produites non pas par les Indiens, mais exclusivement par les Blancs, les sources écrites. Et notamment, dans le film, il y a toute une réflexion sur la presse, sur les journaux, Et on voit que les journaux, donc les journaux en anglais, écrits et lus par des blancs, eh bien, ils pratiquent la désinformation, la rumeur, la stigmatisation des Indiens, et le mensonge, tout simplement. Ils inventent des faits que les Indiens n'ont pas commis. Et il y a toujours chez Ford, dans presque tous les films de Ford, il y a toujours cette idée d'un rapport entre le mensonge et la violence. Et voilà, le mensonge est violent en lui-même, c'est un thème qu'on retrouve très souvent dans son cinéma. Et ici, cette violence, d'ailleurs, elle est parfois exprimée par le montage. On sait que le cinéma, c'est avant tout un art du montage. Par exemple, on passe d'un plan très marquant où il y a un paysage parsemé de manière très funèbre par des carcasses, enfin des os de bisons qui ont été massacrés par les Blancs, donc que les Indiens ne pourront pas manger et que les Blancs n'ont tué que pour leur peau. Et on passe de ce plan à un crieur de journaux dans une rue de l'Ouest qui dit « Édition spéciale, des Cheyennes attaquent des colons et massacrent la colonie ». Donc entre le fait que la réalité, c'est que les Blancs, en fait, privent les Indiens de leurs ressources alimentaires et que de l'autre côté, on leur invente des massacres qu'ils n'ont pas commis, il y a quelque chose comme ça de très très violent. Et donc, la question se pose aux spectateurs, est-ce qu'on peut raconter une histoire à partir de sources qui, justement, sont aussi peu fiables? Et il y a évidemment une carence des sources indiennes, puisque la plupart des peuples indiens, en fait, n'avaient pas d'écriture et donc ils n'ont pas raconté leur histoire. D'ailleurs, il y a un Indien qui le dit dans le film à un moment, hein, dans les Cheyennes, qui dit « Mais qui racontera l'histoire de Fort Robinson, hein? Qui racontera l'histoire de Fort Robinson? Quelles sont les traces qui seront laissées de tout ça ?» Alors, le souci de documentation, justement, le souci de la source, on va le retrouver chez beaucoup de réalisateurs. Par exemple, dans Un homme nommé Cheval, au générique, il y a des références bibliographiques, ce qui est assez intéressant. Dans Danse avec les loups, Kevin Costner s'est assuré de la caution scientifique d'un universitaire, un universitaire Sioux, en l'occurrence Albert White Hatt. Et dans Danse avec les loups, d'ailleurs, un des aspects intéressants du film, c'est cette réflexion là aussi sur les sources, un peu comme dans Les Cheyennes. C'est un film qui met en abîme la question des sources, puisqu'on montre aussi comment on peut produire des sources et comment elles peuvent se perdre. John Dunbar, le personnage central, joué par Costner, il tient un petit carnet. Il tient un carnet ethnographique, disons, il dessine, il écrit sur les Sioux, quelles sont leurs mœurs, quelles sont leurs coutumes, etc. Un peu comme Delacroix l'avait fait au Maroc. Et donc son petit carnet, ben, il subit des aléas. C'est une source qui a peut-être existé, mais qui va être perdue. D'abord, il tombe dans l'eau à un moment, et ça c'est très symbolique, c'est le cours de l'eau, le cours des événements qui efface les traces, qui efface les preuves. Et donc John Dunbar récupère quelques temps plus tard son carnet, mais à moitié effacé. Donc déjà, là, on voit que la vérité, la mémoire, elle est en partie perdue. Et puis surtout, il y a des soldats qui trouvent son carnet. Et puis les deux soldats qui le trouvent, comme ils ne savent pas lire et qui ne voient pas du tout l'intérêt ethnologique, l'intérêt intellectuel que peut avoir ce document, eh bien ils s'en servent comme torche-cul. Et ça c'est assez symbolique, hein, c'est assez symbolique de la violence de l'ignorance, de la violence qui est faite non seulement au peuple indien, mais de la violence qui est faite aussi à ceux qui ont essayé ou qui ont voulu les comprendre et qui ont voulu donc aussi garder une trace de ces cultures.
Hey, Spivey! Spivey! T'as du papier?
Ça peut te foutre.
Bah, donne-moi un peu, Sharon.
Tu sais lire?
Mais non, je sais pas lire. Qu'est-ce que ça change? Tu sais pas lire, toi non plus. Donne-moi du papier. Donne-moi un peu!
Tu l'auras, sois pas si pressé.
Mais...
Alors, je le disais tout à l'heure, hein, ni l'historien ni le cinéaste, bien sûr, ne peuvent faire revivre le passé. C'est une évidence. Et donc, on considérera que les films qui mettent en scène cette impossibilité, l'impossibilité de retracer le passé, sont peut-être des films particulièrement intéressants. J'en citerai deux pour terminer, deux exemples majeurs. Le premier, c'est Little Big Man, d'Arthur Penn, film de 1970. Alors Little Big Man, il met en scène cette impossibilité puisque en fait Little Big Man c'est un long flashback qui commence par un procédé énonciatif. Un très 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 vieil homme est interviewé par un journaliste et tout ce qu'on va voir dans le film est donc raconté par ce vieil homme. Et ce que commence à dire ce vieil homme, ce sont des choses assez étranges puisqu'il dit d'abord « Je suis le seul blanc survivant de la bataille de Little Big Horn ». Or, on sait bien qu'il n'y a pas eu de survivants de cette bataille, donc déjà on est installé dans le doute sur la véracité de tout ce qu'on va voir. Et puis il dit, il y a 111 ans alors que j'avais 10 ans, donc ça veut dire que ce personnage a 121 ans, ce qui est quand même assez peu courant. Donc là aussi, d'emblée, Et durant tout le film, le spectateur a cette petite veille en lui qui lui fait considérer que tout ce qu'il lui racontait en fait relève du faux, bien évidemment. Et donc le jeu d'Arthur Penn dans le film, c'est de nous faire renoncer à toute idée de vérité absolue et toute idée surtout de reconstitution. Voilà, le cinéma, pas plus que l'histoire, ne peut reconstituer au sens strict. Hein. D'ailleurs, à un moment, Jack Crubb, le personnage, s'associe avec un charlatan qui lui dit « Le mensonge mène le monde ». Voilà, « Le mensonge mène le monde », c'est peut-être un des fils conducteurs de Little Big Man. Et donc, il y a vraiment dans le film d'Arthur Penn ce refus d'un réalisme naïf, ce refus de l'idée que le cinéma va nous montrer la réalité de ce qui s'est passé dans la conquête de l'Ouest, qui est radicalement, encore une fois, impossible. Il y a un écart impossible à nier entre le réel et sa représentation. Toute représentation suppose un choix, suppose une stylisation, et donc il est impossible de donner le réel à voir. Et cette conscience, justement, de cette impossibilité, peut conduire un cinéaste, en l'occurrence Jim Jarmusch, à ne pas chercher à raconter des faits réels, entre guillemets, mais à retrouver, en fait, par la forme elle-même de son film, quelque chose des cultures amérindiennes. Et là, bien sûr, on en arrive à ce chef-d'œuvre qui est Dead Man, en 1995, film de Jarmusch. En fait, l'idée de Jarmusch pour ce film, c'était pas de reconstituer quelque chose, mais c'était de revenir peut-être justement avant la codification du genre western, puisque le western, c'est un genre qui s'est codifié peu à peu. Et donc, il a essayé de montrer quelque chose des cultures indiennes, mais en se défaisant des codes du genre. Donc, alors, comment il a fait ? D'abord, il a fait par une documentation très précise et très fouillée, peut-être unique dans l'histoire du western. Documentation sur un peuple, les Maka, en l'occurrence. Donc, étude très spécifique de la langue Maka, et la langue Maka qui est parlée dans le film est absolument irréprochable. Emploi d'artistes Maka pour recréer des œuvres, des œuvres d'art, notamment la maison en bec de corbeau là qu'on voit à la fin, dans laquelle rentre Johnny Depp avant de mourir. La reconstitution des villages Maka d'après photo, donc une grande fidélité. Mais cette fidélité, elle n'empêche pas Jarmusch de savoir qu'il ne fait pas revivre le passé et que ce qu'il crée, c'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art, donc c'est quelque chose qui réinterprète les choses. Et c'est peut-être pour ça qu'il choisit le noir et blanc, d'ailleurs. Le noir et blanc qui instaure une distance avec ce qu'on voit. On sait qu'on est dans la représentation. Autre chose, Jarmusch, qui donc essaie d'évoquer une culture à peu près disparue et ancienne, eh bien, Jarmusch, en même temps, il multiplie dans son film les allusions à l'univers de la pop et du rock. Donc, univers qui, a priori, n'a rien à voir. Bon, c'est bien sûr Neil Young qui fait la musique, c'est Iggy Pop qui joue un personnage. Et puis, c'est aussi beaucoup, beaucoup d'autres allusions. Je renvoie les curieux. Il y a deux pages d'allusions au rock dans Dead Man qui sont répertoriées dans un film qui s'appelle Western, avec un S, dans la collection 50 questions. C'est un livre qui a été écrit par Jean-Louis Letra et Iliandra Guigues, qui sont deux auteurs très intéressants sur le western. Et donc, c'est aux pages 147-148, pour être précis, de ce livre western, donc dans la collection 50 questions. Donc, à la fois, pour Jarmusch, le fait de parsemer son film d'allusions au rock, c'est justement le fait aussi d'assumer cette conscience qu'on ne peut pas reconstituer, qu'on ne peut pas revenir en arrière, qu'on ne peut pas faire revivre ce qui est mort. Et ça, il va aussi l'exprimer dans la façon de filmer et dans le montage. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que dans Dead Man, c'est pas seulement ce qui est montré qui est censé nous faire comprendre quelque chose sur les cultures indiennes, c'est la manière de le montrer. La manière même de filmer, de cadrer, de monter est censée exprimer quelque chose de l'esprit de cette culture, de ces cultures. Et par exemple, dans le film, il y a tout le temps une confrontation entre deux conceptions du temps. Une conception qu'on dirait occidentale, linéaire, où les événements se succèdent, et c'est par exemple le processus de la conquête de l'Ouest qui fait que le temps est irréversible, les événements se succèdent de manière orientée. Et puis, de notre côté, une autre conception du temps qui serait davantage celle de la culture Maka, qui serait un temps cyclique. Et le temps cyclique, dans le film, c'est le fleuve. C'est le village indien qui revient à plusieurs moments. Le même village indien revient à plusieurs moments de la narration. C'est bien sûr le thème central du film, qui est le retour de William Blake, puisque On ne sait plus très bien si le personnage joué par Johnny Depp est simplement un petit comptable égaré dans l'Ouest ou si c'est effectivement la réincarnation de William Blake, comme lui dit l'Indien Nobody. Et ces deux conceptions du temps, elles se traduisent aussi dans le film par deux conceptions de l'espace. Il y a une conception de l'espace là aussi qui est occidentale, qui se caractérise par le champ contre champ, par l'horizontalité, par la séparation, hein, la séparation nette des différents individus, des différents plans. Et puis une vision de l'espace qui correspond au temps cyclique d'ailleurs, une vision de l'espace qui est davantage basée sur l'axe vertical et non pas sur l'axe horizontal, et puis surtout sur une vision fusionnelle. Et Jarmusch multiplie les fondus enchaînés, il multiplie les images qui se superposent les unes avec les autres pour tendre comme ça, doucement, vers une vision qui ne soit pas une vision de la séparation propre à la pensée occidentale, mais une vision de la fusion, du mélange, de l'indiscernabilité des choses. Et donc là, avec Deadman, on a vraiment une conciliation très très originale et particulièrement brillante, d'un côté du réalisme, puisque bon, il y a effectivement ce souci de documentation assez unique, et de l'autre en fait de l'onirisme, de l'acceptation comme ça du statut magique et onirique d'une œuvre d'art. La prochaine chronique, on restera toujours dans le monde des Indiens, et en analysant toujours certains des films dont j'ai parlé dans cette chronique, on se demandera là aussi quelle est l'ambition d'un film, et est-ce que l'ambition d'un film peut être de tenir un discours didactique. Autrement dit, est-ce qu'on peut attendre d'un film et d'une œuvre d'art en général un enseignement moral ?
Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui passent par la porte et ceux qui passent par la fenêtre.
Les chroniques westernosophiques du professeur Rosmini. Tous les deuxièmes et quatrièmes dimanches du mois. Sur Radio Grenouille 888. Et sur www.grenouille888.org.